Chemin
faisant.
Chemin faisant.
Chemin.
T'es sûr, c'est le bon chemin.
Chemin
faisant.
Chemin faisant. À la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Regard croisé sur des résidences de recherche et création dans 6 parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Chemin.
Chemin.
En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Musicienne, écrivain, écrivaine, mais aussi sociologue, danseur et danseuse, chercheur en sciences sociales.
Chemin.
Faisons.
12 radios dans 6 parcs vont à la rencontre de leur travail.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Chemin faisant à la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Chemin faisant, c'est une série d'émissions, c'est un projet, programme qui a déjà donné lieu donc à plusieurs émissions, plusieurs sons à travers les territoires, le massif des Bauges, le Pilat, la Chartreuse, le Vercors, les Monts d'Ardèche, Baronne Provençale. Ce sont 6 parcs naturels régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont mené pendant 3 années 3 résidences de recherche-création associant des artistes et des chercheurs, plus particulièrement en sciences sociales. Une thématique générale est partagée, celle de nouvelles formes d'itinérance, interrogeant des pratiques annuelles et anciennes, des mémoires, un rapport moderne à l'espace et à l'expression artistique dans l'espace, justement. Une dimension participative, inclusive, une sorte de rendu de ce projet Chemin faisant. Telle est l'idée de cette émission enregistrée au Monastier sur Gazeille, co-organisée et co-animée par les 3 radios de ce territoire, Fréquence 7, RDB, Radio des Boutières et FM 43. Bonjour Laura.
Bonjour Lily. Je suis ravie de faire ce plateau, co-animer ce plateau avec toi et avec Fréquence 7, qui est en régie.
L'émission avec vous.
Et nous sommes aussi ravis de vous embarquer, chers auditeuristes, avec nous une heure sur les traces de ces travaux de recherche ici dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche qui ouvre la voie à de nouvelles réflexions, de nouvelles médiations et pratiques autour de nos lieux de patrimoine, patrimoine historique, patrimoine naturel et industriel. Nous mettons l'accent aujourd'hui sur un projet de recherche-création qui a mobilisé les habitants, les acteurs associatifs des territoires où réside la Trans-Sévenole. C'est la Trans-Sévenole, cette voie non ferrée ou la ligne de chemin de fer devant relier le Puy envelé à l'Alevade d'Ardèche où le train n'a jamais sifflé. Ce train fantôme, c'est l'objet même de ce projet sonographique qui, par la médiation d'une chercheuse et d'une artiste, a tenté de faire vivre par le son ce paysage industriel. Et nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir avec Lily aujourd'hui des membres des représentants du parc naturel régional des Monts d'Ardèche qui ont participé à ce projet et qui nous expliqueront son concept, sa démarche initiale et son importance aujourd'hui sur le territoire. Donc Elisa Jaffrenou sera avec nous, chargée de mission culture et patrimoine et coordinatrice proximité territoriale, ainsi que Thierry Leclerc, vice-président du parc, délégué du parc à Fressenay-Lacuche, en charge de la proximité, des relations avec la Haute-Loire et de la marque Valorc Park. Puis ensuite, nous donnerons la parole pour voyager avec nous à bord de ce train fantôme. Nous recevrons en invité Jean-Pierre Vadjani et Patrick Mottet, membres de l'association La Trans-Sévenole. Ils seront avec nous en fin d'émission, pour nous parler de leurs actions de valorisation ici au Monastier sur Gazeille, mais également de leur réception et de leur participation à ce projet de recherche-création-sonographie. Puis Lily, tu recevras également au micro Laure Jourdan, adjointe au Monastier sur Gazeille en charge des affaires culturelles, qui a suivi de près le projet sonographie jusqu'au centre même du village du Monastier. Et elle nous expliquera comment il est possible de lier la Trans-Sévenole ici au sein du village.
Pour l'heure, on est bien au Monastier sur Gazeille en compagnie de nos 3 radios, Fréquence 7, RDB et FM 43. Et je suis très heureuse d'être là avec vous. Thierry Leclerc, vous êtes vice-président du parc, délégué du parc à Fressenay-Lacuche, en charge de la proximité, des relations avec la Haute-Loire et de la marque Valeur Parc. Et puis Elisa Jaffernou, vous êtes chargée de mission culture et patrimoine et coordinatrice proximité territoriale. Beaucoup de bons mots
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, en tout cas, sur les ondes.
Merci beaucoup de nous accueillir ici, tous les trois radios, ensemble, autour de ce projet. C'est très satisfaisant aussi pour nous.
Oui, merci, ça fait plaisir d'être avec vous. Bon, c'est un petit peu pompeux tous ces titres, hein. On va rester un peu plus simple parce que là, ça fait vraiment...
Bien sûr, on va tenter justement lors de cette émission de vulgariser ce projet, ce grand projet de chemin faisant. Et nous allons commencer justement avec vous, Elisa, puisque pour comprendre un peu la démarche de ce projet, pour le vulgariser auprès de nos auditeurs, auditrices, vous avez participé à la coordination donc, de ce projet Chemin faisant, les nouvelles itinérances culturelles dans les parcs naturels régionaux. Un projet, donc, on l'a dit, regroupant plusieurs parcs d'Auvergne-Rhône-Alpes autour de la résidence sur des territoires ruraux. Pour comprendre donc, dès le départ ce projet à plusieurs acteurs, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les parcs s'engagent-ils dans des projets de recherche-création et notamment autour de la thématique de l'itinérance ?
Alors, il faut rappeler effectivement que les parcs ont une mission d'expérimentation et de recherche. C'est important. On est effectivement des territoires laboratoires où on vient s'intéresser à tous les patrimoines qui font qu'on est un parc naturel régional, que ce soit des patrimoines naturels, des patrimoines paysagers ou des patrimoines culturels. Et pour être laboratoire, ben c'est vrai que faire appel à des artistes et à des chercheurs, ça nous permet de nous saisir de ces patrimoines d'une manière différente, de faire un pas de côté. Et pour ça, on est soutenu par le ministère de la Culture, voilà, qui trouve intéressant justement que les parcs puissent réfléchir et expérimenter ce type de projet en direction des habitants, des territoires ruraux en particulier.
Depuis combien de temps le parc naturel régional des Monts d'Ardèche travaille-t-il justement à développer ces nouvelles réflexions, ces nouvelles méthodes de valorisation du patrimoine ?
Alors j'ai envie de dire que ça fait partie vraiment de l'ADN du parc qui a fêté ses 20 ans en 2021, on est né en 2001 précisément, et c'est vrai que la question de la création artistique en particulier a toujours fait partie de la manière dont on a travaillé avec des acteurs locaux, je pense notamment au Sentier des Lauzes dans le sud du parc, à Saint-Mélanie. On a souvent invité des artistes pour révéler les patrimoines remarquables de notre territoire. Ensuite, il y a eu aussi, avant la création du parc, la découverte de la grotte Chauvet, avec cet ADN, à l'époque, la première œuvre d'art de l'humanité. Et du coup, c'est vrai qu'on a toujours aimé travailler avec des artistes pour révéler les patrimoines. On a créé en 2017 la ligne de partage des eaux. Et par ailleurs, on aime bien sûr aussi faire appel à des chercheurs en sciences sociales qui vont pouvoir aller un peu plus en profondeur, questionner une filière emblématique, un savoir-faire comme la vannerie, la question aussi de tous les nouveaux arrivants sur notre territoire, enfin toute la diversité de ce territoire-là sous ses différentes facettes.
Donc un projet très global. Et justement, on va essayer de comprendre un petit peu l'articulation de chemin faisant, de ces nouvelles itinérances culturelles que vous menez depuis quelques années maintenant. Comment se sont passées ces recherches, ces actions concrètes qui vous a demandé de l'engagement en termes de travail, de prise de contact avec les artistes, chercheurs, les appels à candidature? Comment s'est passé ce processus initial?
Alors, vous l'avez dit en introduction, c'est un projet de coopération entre les parcs au sein, voilà, de l'association des parcs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc d'abord, il y a tout ce travail de se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de faire ensemble. Effectivement, vous l'avez dit, la thématique des itinérances, des grandes itinérances, nous a semblé intéressante entre, effectivement, sur les pas des Huguenots, le chemin de Stevenson, etc., le GR65. On a vraiment ces grandes itinérances.
Qui façonnent les territoires ici, oui.
Exactement. Et ensuite, effectivement, l'idée pour nous, ce qui est important dans les parcs, c'est bien sûr d'avoir une réflexion sur des grandes thématiques, mais après, c'est bien sûr d'ancrer les projets dans les territoires ou dans le territoire. Et à l'époque, effectivement, on s'est dit, voilà, les grandes itinérances, on avait travaillé sur un certain nombre déjà d'itinérances sur le territoire du parc. Et l'itinérance de la Trans-Cévenole nous semblait un beau terrain, effectivement, pour atterrir. Et c'est là où, effectivement, on s'adresse à tous les acteurs locaux. On essaye de les repérer et de créer les conditions d'un travail avec eux en local, puisqu'effectivement, moi, je ne suis pas spécialiste du patrimoine de la Transcévenole, je ne suis pas historienne. Par contre, mon métier, c'est effectivement de mettre en relation une association patrimoniale avec des élus du territoire, avec une école, etc., pour que, de façon à créer les conditions de la médiation et de la rencontre.
On parlera justement dans un instant après donc, de cette voie de la Transcévenole, qui est vraiment l'objet phare de ce projet. Mais une question sur la pertinence que vous avez soulevée à croiser des regards scientifiques et artistiques. Des regards, des fois, que l'on oppose un peu, qui résonnent finalement à l'échelle d'un territoire. Pourquoi croiser ces regards artistes et sciences ?
Eh bien, parce qu'on a besoin à la fois de savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est le travail plutôt du chercheur, en l'occurrence voilà, en sciences sociales. Parce que voilà, on traite de sujets parfois compliqués, voilà, historiques ou avec des savoir-faire. Et donc, on a quand même une obligation de connaissance, c'est pas de parler des choses de manière trop superficielle. Et l'artiste, lui, il va vraiment nous permettre de faire le pas de côté d'un seul coup, en fait, avec son regard, de nous déplacer et nous embarquer dans une nouvelle aventure, parfois un peu sinueuse. On a des fois on peut avoir du mal à comprendre là où l'artiste veut nous amener, mais la combinaison des deux, à la fois une démarche scientifique et un regard décalé, ben, nous amène sur des nouveaux champs.
Partir du concret, de ce qui est palpable, de ce qui existe, pour créer des imaginaires, c'est ça?
Exactement, c'est tout à fait bien résumé.
Il y a une notion de vulgariser aussi?
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de résidence de territoire, parce que notre objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre des habitants. Et du coup, dans la rencontre avec les habitants, c'est effectivement de proposer une manière de vulgariser aussi le propos du chercheur et de l'artiste.
Alors justement, vous faisiez un écho à l'introduction où je parlais donc du projet au niveau régional, de ce que ça signifiait aussi. On parle d'itinérance, on parle également de résidence. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, éclaircir ce terme « résidence ».
Tout à fait. Alors concrètement, c'est un artiste et un chercheur qui sont invités, là pour le projet Sonographie, à venir sur le territoire pendant un mois. Donc résider, ça veut dire habiter avec. Donc vraiment, ils viennent ici pendant une période qui est suffisamment importante. Alors en l'occurrence, c'était 2 fois 15 jours pour effectivement avoir une première période où on prend connaissance du territoire, on commence à créer des relations, on se nourrit, on repart. Voilà, exactement, complètement. Et puis après, on revient avec des propositions un peu plus concrètes et on vient les confronter et encore les nourrir sur le terrain. Donc c'est vraiment la résidence, et on vient habiter sur et avec le territoire et les différents acteurs qui y habitent.
Thierry Leclerc, je me tourne vers vous, puisque vous êtes vice-président du parc, mais également vous avez une autre casquette, celle du président de l'espace culturel européen. Donc vous avez suivi bien ce projet, Sonographie, ici au Monastier sur Gazeille. Pour vous, est-ce que ce projet arrive à tisser du lien entre les communes d'Ardèche, mais de Haute-Loire, que vous connaissez bien ?
Alors, justement, le projet est là, c'est qu'en fait, on arrive à faire un lien entre les deux départements. Ce qui était à l'origine, c'était l'origine en fait de la Transcévenole. La Transcévenole permettait de relier le Puy avec la Basse-Ardèche. Projet qui n'a jamais vu, enfin qui n'a jamais abouti. Par contre, oui, aujourd'hui, ça serait intéressant qu'on arrive à recréer ce lien. Donc, du côté Haute-Loire, ça se passe bien. Déjà, nous, on a une association qui est porteuse et donc qui vraiment travaille sur ce sujet. Et là, du coup, ça intéresse aussi le côté ardéchois qui se dit, tiens, pourquoi pas, nous aussi, après tout, on a cette Transcévenole. Et ça serait bien de faire le lien et de pouvoir redescendre. Parce que, donc, comme disait très bien Elisa tout à l'heure, ce qui est important surtout, c'est l'habitant, la population, et qu'elle soit intégrée dans ce projet. En fait, on ne travaille pas seul. Alors, on travaille avec des artistes, avec tout un tas d'instruits. on va prendre les grands mots. Mais ce qui est important surtout, c'est le contact humain. C'est l'habitant, c'est lui, en fait, qui vit au quotidien avec ses projets et qui doit se l'approprier. Si les gens du territoire ne s'approprient pas un projet, on peut considérer que ça ne sert à rien. À mon avis, ça ne sert à rien.
Oui, c'est le mener au plus proche des habitants, au cœur vraiment du village, de ceux qui l'animent, ceux qui vivent ce territoire, la proximité. Et vous, comment l'avez-vous vécu justement ce lien entre acteurs associatifs, entre le parc, entre les artistes? Comment vous l'avez vécu de l'intérieur?
Moi, je suis à la proximité, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est le lien avec tout le monde. Et c'est extraordinaire. On fait se rencontrer des gens qui ne se sont jamais vus, qui, dans un autre cas de figure, ne se seraient peut-être même jamais parlé, puisque là, on met tout à plat. C'est-à-dire que il y a plus de hiérarchie, il y a pas de... on met de côté celui qui a été plus longtemps à l'école ou moins longtemps à l'école, qui est... On supprime, en fait, tous les tabous, et puis on va ensemble dans la même direction, pour un même projet. Et ça, c'est intéressant pour un territoire.
C'était l'objectif ?
Est-ce que c'était l'objectif au départ ? Je ne sais pas, mais c'est devenu un objectif.
Bien sûr, et vous avez vu l'évolution de ces personnes qui essayent de comprendre un peu les aboutissants de ce projet, et au final, on va recevoir l'association Trans-Sévenol tout à l'heure, et qui après le comprennent et y prennent part entièrement, et les habitants d'eux-mêmes.
Oui,
et
puis ce contact humain, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. J'en reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'est formidable. On apprend à se connaître, et puis passer du temps ensemble, et enfin, c'est franchement génial, quoi. C'est génial. Enfin...
Donc la Trans-Sévenol nous lie par le territoire et facilite ce contact humain, ces valeurs partagées. Et pour le parc, justement, quelle valeur ajoutée pour le parc de faire ce projet-là ?
Eh bien, territoire d'expérimentation. Une expérience, on l'essaye, ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche, eh bien, tant mieux. Si ça ne marche pas, on est très déçu, mais bon, ça fait avancer. Il ne faut pas rester sur un échec. Après, on est là justement pour essayer. On est là pour aboutir à quelque chose et pour découvrir, faire ou découvrir. Découvrir et faire découvrir de nouvelles choses. Donc oui, c'est un plus. C'est dans l'ADN du parc.
Et puis, dans la richesse du patrimoine, pensez-vous aussi que la configuration, l'aménagement de celui-ci, du parc naturel régional, facilite un petit peu ce travail de réflexion, peut-être, de médiation ?
Vous avez vu le territoire.
Voilà.
Une merveille.
Donc tout est dit. On parle de la Trans-Sévenol, mais on peut penser aussi de tous ces œuvres de patrimoine.
Tout l'environnement, tout ce qui est autour. Enfin, voilà, il n'y a pas... Oui, effectivement, on va de gare en gare, on va de village en village, et tous les jours, c'est une nouvelle découverte.
Lily, je t'en prie.
Ce qui rythme un peu la discussion depuis le début de cette émission, c'est l'expérimentation au cœur de ces résidences, au cœur de ces itinérances-là, l'idée de confronter le regard scientifique avec le regard artistique un peu plus culturel, et puis de créer du lien aussi, c'est ce que je ressens. Est-ce que, alors, sur un regard scientifique, on a de quoi ? On a des éléments tangibles pour évaluer, pour dire si ça a marché ou si ça n'a pas marché. C'est le cas, vous disiez, si ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais quels sont les critères où là, justement, ça aurait pu ne pas marcher, les critères d'évaluation ?
Que les gens ne s'investissent pas. Oui, vas-y, Elisa.
J'ai peut-être une piste,
oui, peut-être.
Si je peux me permettre. C'est effectivement qu'aujourd'hui, suite au projet, il y a eu l'envie des différents acteurs qui étaient autour de la table avec l'accueil de la chercheuse et de l'artiste, de poursuivre dans cette piste de la valorisation du paysage sonore de la Trans-Sévenol qu'elles ont creusé. Donc ça, pour moi, c'est un indicateur, c'est-à-dire qu'on... le projet n'aurait pas fait écho chez les uns les autres. On aurait dit, on a expérimenté...
Il n'y a pas de volonté de continuer.
Effectivement, aujourd'hui, le fait que tous ces acteurs réunis aient envie de continuer, qu'on ait obtenu des financements, il y a vraiment un consensus. Et pour moi, ce consensus, c'est un indicateur de la réussite, quelque part, de l'expérimentation.
C'est très simple. Ça n'aurait pas marché, on ne serait pas là.
Bien sûr.
On ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Donc là, c'est que ça marche. C'est qu'il y a quelque chose qui se crée. On n'est pas au bout, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et c'est là où c'est beau. C'est là où c'est intéressant.
Et à l'inverse aussi, pour les artistes et les artistes chercheuses, c'est un territoire d'expérimentation inspirant, avec plein de ressources. Quel a été le retour ? On va écouter tout à l'heure un petit reportage de leur processus de travail. Mais Elisa, comment l'avez-vous ressenti par rapport à ces artistes chercheuses, ce binôme ?
Alors, c'est difficile peut-être de parler à leur place. Ce qui est intéressant, peut-être... c'est qu'effectivement, on voit bien que les artistes et les chercheurs, elles sont aussi très en attente de cette proximité. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des projets justement très théoriques ou très dans la création artistique. Et ces artistes et ces chercheurs qui répondent à des projets de ce type-là, c'est qu'ils ont vraiment, ils aiment la rencontre avec les habitants. Ils aiment provoquer justement des moments d'émotion, des moments de surprise, produire des contenus, faire découvrir leur métier. Et c'est ça qui est assez merveilleux dans ce qu'on peut découvrir dans le travail avec eux. mieux. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet-là, c'est que du coup, en l'occurrence, l'artiste et la chercheuse sont ensuite allés sillonner les autres parcs et que finalement, ce qu'elles ont vécu ici, ça a nourri aussi les projets par la suite. Et donc, c'est, voilà, on va dire que tout le monde est nourri aux différents, depuis sa place par le projet.
On parlait d'expérimentation, en tout cas de résultats d'expérimentation liés aux habitants, liés aux acteurs. On parle aussi je m'intéresse beaucoup à la résidence culturelle. La résidence culturelle, c'est aussi expérimenter. Est-ce que là, pour le coup, pour les artistes, il était question d'expérimenter ?
Complètement. Il était question d'expérimenter dans justement les actions de médiation artistique et culturelle qu'ils proposaient. Donc on va voir effectivement avec des ateliers fiction, avec des ateliers chasseurs de sons, avec des concerts d'improvisation, etc. Donc ils expérimentent, en tout cas les habitants expérimentent des formes avec les artistes et les artistes aussi expérimentent des nouvelles formes parce que voilà ce que raconte la Transsévenole, ils n'ont pas forcément pu la rencontrer par ailleurs. Voilà la découverte de l'orgue de la Bastiale Saint-Chaffre pour Michel Agnès Miagalès, c'est une vraie rencontre. Donc l'expérimentation, elle se joue à tous les niveaux. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais...
Tout à fait.
tout à fait. Avant justement d'écouter ce reportage sonore où les artistes et la chercheuse expriment vraiment leur travail, un mot quand même sur les actions que vous mettez en place avec l'éducation artistique et culturelle pour comprendre en quelques mots les enjeux fixés et en priorité pour les jeunes. C'est le public que vous avez misé pour ces actions-là. Donc comment s'est déroulée ces actions d'éducation artistique et culturelle ?
Oui, peut-être juste dire qu'effectivement l'éducation artistique et culturelle, vous en avez parlé toutes les deux, c'est très important, notamment en milieu rural. Redire qu'on est soutenu par le ministère de la Culture et qui s'intéresse beaucoup à comment la culture, qui n'est pas présente avec des grands équipements dans les milieux ruraux, elle irrigue le territoire. Et ça passe notamment par la rencontre avec des artistes, la pratique artistique et l'ouverture au monde que permettent ces rendez-vous. Et donc là, effectivement, d'un côté, on avait l'association La Transsévenole, qui est plutôt une association de retraités, si je peux me permettre, mettre en question ça. Et c'était effectivement intéressant d'aller chercher justement sur ces questions patrimoniales au sens large, un autre public, et donc un public beaucoup plus jeune. Et donc là, on est passé principalement donc par les écoles et par l'école aussi de musique, de façon à embarquer dans l'aventure des jeunes et de voir comment on pouvait s'adresser à eux pour évoquer ce patrimoine. Disparu.
Et qu'ils soient aussi acteurs.
Ah oui, complètement. Donc chasseurs de son, des ateliers chasseurs de son.
On allait y venir, ouais. Justement, parce que le son, c'est l'objet vraiment de ces recherches, une interprétation sonore de ce patrimoine-là. Pourquoi le son, Elisa ? Pourquoi elles sont parties dans cette recherche-là ? Pourquoi une valorisation sonore ?
Alors c'est vrai que c'est l'artiste et la chercheuse qui se sont unis pour faire cette proposition sonographie. Donc elles, c'était effectivement dans leur pratique de recherche et artistique. Et évidemment, ça a fait écho à beaucoup de parcs. Et on a été très, très heureuses de ces propositions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait écho à ce qu'on entend beaucoup comme autour du terme du paysage sonore. Donc il y a beaucoup de parcs qui travaillent sur ces questions-là. Et nous, c'est vrai que le projet sonographie nous a ouvert ce champ du paysage sonore et nous a donné envie aussi de continuer à le travailler. Et pour illustrer, cette année, dans le cadre des Castagnades 2023, nous avons fait aussi appel à un artiste sonore, géographe de formation, le collectif Braquage Sonore et Compagnie, à qui on a demandé de nous faire voyager au cœur de la Châtaigneraie grâce au son, grâce à une proposition qu'il a pu présenter sur les 11 fêtes des Castagnades de cette année. Donc voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Elisa Jaffrenou, donc chargée de mission culture et patrimoine et coordinatrice proximité territoriale au sein du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Merci également à Thierry Leclerc, donc vice-président du Parc et président de l'Espace culturel européen, d'être intervenu. On va écouter de suite ce reportage donc, réalisé par Quentin sur les témoignages de ces artistes chercheuses donc, qui ont entrepris ce projet sonore de valorisation auprès des habitants de la Transsévenole.
L'occasion de voyager également à travers les paysages sonores.
Écoutez bien.
Partons ensemble à la rencontre de deux femmes qui, au courant de l'année 2020, ont effectué une résidence créative au monastier sur Gazeille sur une invitation du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Michel Agnès Magalinche, compositrice et pianiste, et Anne Dubot, anthropologue, sont arrivés sur place avec une intention peu commune, celle de cartographier les sons du lieu, les sons des sentiers, dans un projet intitulé Sonographie.
Sonographie pourquoi ? Parce que l'idée, c'était de mettre en lien les traversées des territoires comme des lignes et puis les partitions de musique. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on va écrire des trajectoires à travers le territoire sur des cartes et est-ce qu'on ne pourrait pas comparer la carte IGN à une partition de musique ? Est-ce qu'on n'a pas affaire là à une partition de gestes à faire quand on lit la carte ? Depuis en fait les débuts de la notation musicale, au Moyen-Âge, il y a plein de compositeurs qui ont commencé à plonger là-dedans et trouver des relations. Parce que à l'image d'une carte, une partition aussi, elle présuppose un ensemble de relations parfois qui passent par les côtés mathématiques et parfois qui sont lues plutôt de façon gestuelle, dans le sens de suggérer un mouvement physique corporel, parce que la partition, elle a ses deux lectures et ses deux dimensions. Pour moi, j'utilise les deux stratégies. Une, ça a été de transposer littéralement et de trouver la relation entre, par exemple, auteur musical et auteur littéral. Oui. Et un autre aussi, c'était d'approcher aussi les cartes de façon gestuelle, ça veut dire les mouvements des sons, l'amplitude du mouvement, l'intensité du mouvement et son intention aussi. Il y avait toute une configuration intéressante en termes de géographie aussi, les monuments que j'ai découverts aussi. J'ai pu aussi interagir et participer avec la mairie, avec les élus et aussi avec des instituteurs, institutrices à l'école.
Qu'est-ce qu'on enregistre et comment on enregistre ? Et tout ça, c'est des questions méthodologiques qui sont apparentes et visibles sur le site, enfin, qui est une forme de padlet que j'ai mis à disposition du public pour regarder un peu les résultats de l'enquête, sonographie.net. Donc, c'est un espace où je m'interroge sur la méthodologie à suivre, sur comment écouter un parc naturel régional ou comment écouter un GR, et puis qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis ensuite, je me suis demandé ce que les gens en disaient, donc je suis allée interviewer les personnes et leur demander ce qu'ils entendaient sur les chemins.
Le travail d'enquête des deux femmes, déjà limité dans la durée, n'a pas été facilité par le Covid et ses multiples restrictions. Cependant, elles ont su capter la mémoire vive de ces lieux. Dans l'histoire du monastier sur Gazeille, le projet ferroviaire de la Transsévenole, qui n'aura jamais abouti, est rapidement apparu, en filigrane, le genre de fantôme qui reste présent dans les esprits.
Je suis intéressée à cette question de fantôme, notamment. Moi, je suis au départ anthropologue du geste et des techniques, et ce qu'on appelle le geste technique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre un geste et un objet, ou qu'est-ce qui se passe entre un corps et un dispositif technique ou technologique. Et je m'intéresse à ces questions de fantôme, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, la trace du geste. Une fois qu'on a fait un geste, il n'y a plus de trace. Donc cette question de fantôme, elle est effectivement là. Et ici, là, sur cette ligne, cette traversée, je me rends compte que cette ligne n'a pas existé. On a fait tout en œuvre, on a mis tout en œuvre pour que cette ligne existe, mais en réalité, elle ne voit jamais le jour. Les rails ne sont jamais posés sur la voie.
Sur ces rails, locomotives et wagons n'ont jamais roulé. Pourtant, un poète qui écouterait la rivière entendra le cliquetis des wagons. Et la musicienne, en écoutant souffler la burle, réveille également la mémoire du train fantôme.
Je n'ai fait cette résidence en 3 temps. Et pendant l'hiver, les bruits du souffle, du vent étaient quelque chose de très présent. Donc un troisième élément qui est venu rejoindre aussi cet espace de création sonore. Ça s'est porté un peu sur une recherche du souffle. Et comment il peut être modelé, soit par les sonorités de vent, des souffles, jusqu'à arriver à la locomotive, au siffler du train.
Pour Anne Dubot, le vent n'est pas le seul dépositaire de la mémoire de la Transévenole. Il y a dans les vestiges du chantier et dans les récits des monastérois la fameuse fierté ouvrière, celle des descendants de personnes qui ont, à la sueur de leur front, érigé ces piliers immenses et leurs arcs serrés, creusé les tunnels et fait vivre le monastier sur gazeille.
Je crois qu'il y a également une mémoire sociale des ouvriers. Il y a les images d'archives au musée des trésors du monastère où on voit tous ces ouvriers qui ont travaillé quand même pour fabriquer des choses. Donc c'est aussi une histoire sociale très forte. Je pense que c'est une mémoire ouvrière là qui est intéressante, en tout cas qui est présente, qui est restée, de se dire que ces viaducs, ces ponts et ces tunnels ont été fabriqués à la force d'humains. Les personnes racontent comment elles allaient se promener quand elles étaient petites. Enfin, je pense que les gens tiennent à ce patrimoine architectural. Il prend beaucoup de place dans le paysage. Et je crois que ça, c'est un peu le rêve de l'industrie, quoi. C'est un peu voir le viaduc se construire, c'est un peu comme voir les hôtels de New York se construire, les immeubles, les buildings, parce qu'il fallait quand même construire tous les échafaudages en bois. On voit dans les images d'archives. Ils travaillent sans aucune protection. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Si on voit la taille du viaduc aujourd'hui, des grandes structures, donc on peut comparer le corps de l'humain à la trace du viaduc de la Rocomène, il est quand même impressionnant. Donc c'est ça que les gens se disent. Il y a une espèce de fierté locale. Ce n'est pas des choses qui ont été importées, ce n'est pas des plans chinois qui ont été montés par des grues avec des blocs béton tout construits. Hein. Et je crois que c'est ça la grosse différence avec les bâtiments contemporains. C'est que là, on sait qu'on connaît les carrières, on sait d'où viennent les pierres, et on peut même connaître le nom des ouvriers qui ont travaillé sur la voie. Donc, il y a une espèce de proximité de la fabrique du patrimoine local.
Il faut dire que les vestiges de la Transévenole sont partout dans le paysage. L'imposant viaduc de la Recoumène, les tunnels, les gares, les maisons de garde-barrière sont autant de traces réelles de ce train fantasmé.
Alors, c'est aussi un peu là que c'est un train fantôme, c'est-à-dire que les personnes qui sont en mesure de me parler de cette voie n'ont pas vécu sa fabrique ou sa fabrication et n'ont que une expérience directe d'espaces qui ont déjà été transformés. Par exemple, il y a des petites gares qui ont été transformées en maisons. Les quatre gares sont sur le même modèle. Et comment chaque personne a avancé sa proposition à partir d'un petit plan de gare pour un train à venir. Ça, je trouvais ça intéressant. Ensuite, il y a les questions des tunnels. Il y en a quatre qui sont cédés au ministère des Affaires culturelles pour les besoins du service de protection des œuvres d'art. En France, on a un dispositif. Si jamais on a des bombardements, les musées doivent pouvoir être en capacité d'évacuer les musées et de cacher les pièces rares et de les mettre dans des endroits protégés. Le tunnel de Crézailles, lui, il a été utilisé pour l'entraînement des commandos de services spéciaux. Il y a eu finalement à un moment donné des rails posés dans les années 60 pour un feuilleton télévisé, la princesse du rail. Mais c'était des rails qui ont été posés pour le feuilleton. Donc ça n'a jamais été. Le train n'est passé que de manière fictionnelle. Il n'est jamais passé de manière réelle.
Michèle Agnès, quant à elle, a choisi de faire revivre la Transévenole en musique. Sa recherche l'a conduit à rencontrer et expérimenter avec les musiciens monastérois. Et ses pas l'ont mené jusqu'à l'abbatiale de Saint-Chaffre, qui abrite, elle aussi, un joyau vivant de l'histoire du bourg.
L'art, la musique, pour moi, ça marche comme une façon de rendre les choses vivantes, donc d'écouter toutes ces histoires, de recevoir, en fait, tout ce que le lieu aussi me communique, parce que si beaucoup de choses sont venues du lieu eux-mêmes, et après de le concrétiser. Moi, j'ai joué de l'orgue et j'ai pu aussi produire une série de pièces pour orgue, de pièces improvisées, des pièces qui ont été inspirées des plans, des cartes, de matériel, de la construction de la Transévenole. Donc la Transévenole, c'est elle qui a servi de leitmotiv, des sujets qui a unifié toutes ces différentes actions et activités. Et, Et à la fin, justement, nous avons fini avec un concert dans lequel Cétrin, qui n'a pas en fait existé, qui n'a pas été effectivement mis en marche, il est venu rejoindre nos imaginaires, surtout les imaginaires sonores, dans un concert que je fais à l'orgue à l'église du monastère. C'est un instrument très très ancien. C'est peut-être l'orgue le plus ancien de la France. Et justement, en faisant un peu de recherche sur l'instrument, à cause du système des tuyaux, du système aussi d'accordage, c'est pas un instrument qui est accordé de façon habituelle, j'ai pu trouver des sonorités qui se rapprochent beaucoup à sonorités d'encre.
Un reportage réalisé par Quentin de Fréquence 7 avec les témoignages de Anne Duboff et Michel Agnès Magaliès. On est de retour dans ce plateau co-organisé, co-animé avec RDB, Fréquence 7 et FM 43 et enregistré au Monastis sur Gazeille à travers ce projet Chemin faisant.
Et oui, ce train fantôme, il nous parle, Lily, hein, n'est-ce pas ? Ouais. On l'entend. Et justement, nous a rejoint en plateau la cheville, on peut dire, ouvrière du projet Sonographie, l'association Trans-Cévenol. Le parc a mis en relation donc l'association avec l'anthropologue Anne Dubos et la compositrice que nous venons d'écouter, Michel Agnès Magaliès, entre les mains de l'association. Jean-Pierre Vadjani, vice-président de l'association, et Patrick Mottet, membre de l'association et en président. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, on vient d'écouter les témoignages des deux chercheuses artistes qui ont investigué cette voix fantôme que vous connaissez bien. En tendant l'oreille sur cette restitution sonore, est-ce que vous deux, vous arrivez à vous replonger en 1911, quand les travaux ont débuté et que cette voie ferroviaire est alors le grand événement, l'exploit technique de l'époque pour le territoire ?
Se replonger, c'est peut-être un peu plus dur pour
vous
1911.
Vous
n'y étiez pas. Encore même pas prévu. Mais non, c'est effectivement d'abord un ouvrage absolument extraordinaire. Je dis un ouvrage parce qu'en fait, il y a une continuité d'œuvres qu'on ressent quand on fait le parcours. Donc, l'association La Trans-Cévenole, qui effectivement comporte beaucoup d'anciens, on va dire, et qui aimerait d'ailleurs bien retrouver quelques jeunes, on essaye, mais on a du mal.
Depuis quand elle existe, cette association ?
86 de mémoire.
87, je crois,
oui,
qu'importe.
Dans ces eaux-là.
Oui, les années 80-90.
Oui, voilà.
Et vous êtes membre du bureau, donc comment se passe cette association ? Comment vous la faites vivre autour de la valorisation de cette voie Trans-Cévenole, avant même de connaître ce projet qui est apparu ?
Déjà, Laura, on peut peut-être se poser la question, qu'est-ce que concrètement la Trans-Cévenole ?
Oui, bien sûr. Mais,
ouais. C'est une petite association, puisqu'on est une trentaine, donc surtout d'anciens, qui ont d'ailleurs la capacité de connaître assez bien quand même tout ce qui a trait à la Trans-Cévenole, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis, bon, on essaye surtout en fait de faire connaître cette voie, ou en tout cas cet ensemble de chefs-d'œuvre, je dirais, faire connaître et puis essayer de sauvegarder, ce qui est un peu lié aussi. C'est-à-dire que si on arrive à sauvegarder, on arrivera plus facilement à faire connaître, en tout cas, tous ces ouvrages que vous connaissez et qui sont absolument remarquables. C'est un travail pas surhumain, mais qui correspond quand même à une foule d'ouvriers, hein, enfin plus de 1000. Hein.
Oui, et un travail qu'on peut toujours voir entre les ponts, les viaducs représentés. Vous avez vraiment été un peu cette ressource pour ces anthropologues, puisque vous les avez aidés à cartographier, à archiver, à comprendre la mémoire et l'héritage historique de la voie. Comment s'est passée cette rencontre avec les artistes chercheuses, pour vous, pour Patrick Mottet par exemple, ancien président de l'association, comment s'est passée cette rencontre ?
Ça a été pour nous une opportunité extraordinaire, puisque la Transsévenol était alors une association qui essayait de valoriser, surtout de faire connaître cette voie uniquement ou presque uniquement par des marches qui ont lieu deux fois par an. Et cette opportunité offerte par le PNR et donc la rencontre de ces deux femmes nous a permis d'ouvrir autrement, différemment, la voie et surtout de rassembler autour de cette voie beaucoup de gens, et notamment des habitants du monastier, lors d'événements...
Dont
des enfants, tout à fait. Tout à fait, puisque nous avons travaillé avec les deux écoles du monastier. Les enfants ont collecté des sons, ont fait vraiment beaucoup ont beaucoup participé à ce projet. Et ça nous a permis, nous, d'essayer de faire connaître mieux ou différemment cette voie. Elle est porteuse de patrimoine, on l'a dit, elle est porteuse d'une certaine culture, d'une histoire. L'histoire de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et c'était formidable de pouvoir recréer un petit peu, même de façon, imaginaire. Mais comme on vient d'entendre cette locomotive à travers un orgue.
Imaginaire,
complètement. Donc pour nous, ça a été l'opportunité vraiment d'aller plus loin dans la valorisation de cette voie.
Est-ce que c'était facile de s'approprier ce projet-là ? Parce qu'on parlait de vulgarisation tout à l'heure, mais pour vous, est-ce que c'était simple de rentrer dans ce projet, de le comprendre, vous-même de vous investir au départ ?
Alors, de s'investir, oui, pas de problème. Par contre, rentrer dans le projet, non, ça a été vraiment difficile. On a à travers la dame qui a précédé Elisa Jaffrenou, on a eu un premier contact, on se demandait un petit peu où on allait. Mais l'idée, c'était que puisqu'on pouvait faire connaître un petit peu cette Transsévenol, autant en profiter. Donc on est parti comme ça sur de l'opportunisme. Après, il a fallu rencontrer ces deux femmes, qui étaient donc venues en résidence ici, à côté. Le message, il a fallu le décrypter, parce qu'on ne parlait pas finalement le même langage. Elles étaient chacune sur leur registre. En plus, ce n'était pas le même registre. C'était deux personnalités très différentes. Donc, pour nous, c'est un petit peu une découverte, de la surprise.
De l'expérimentation aussi.
De l'expérimentation, bien sûr.
On en parlait.
Bien sûr. Ça n'a pas forcément été facile, mais on y est venu.
Mais petit à petit, vous avez pris part activement à l'opération, puisqu'en mai dernier, vous avez invité les marcheurs à rejoindre la gare des Badiou pour cheminer sur la voie, la Transsévenol, accompagnée de musiciens du monastier sur Gazeille. Alors comment s'est déroulée cette journée ? Je suis curieuse de savoir.
Ah, c'était une journée magnifique, d'abord parce qu'il faisait beau. Ensuite, marcher sur quelques centaines de mètres avec la musique très bien composée, enfin vraiment jouée. Et puis retrouver en fait l'ancienne gare des Badiou, bien remise en état, même je dirais enjolivée par rapport à ce qu'elle devait être à un certain moment. C'était quelque chose d'assez remarquable. On essaiera peut-être de refaire ce genre de choses, mais on a été effectivement très heureux. Et il y avait beaucoup de monde d'ailleurs qui était venu. Et donc ça a encouragé un petit peu à essayer de trouver ce genre d'initiative. On va renouveler ce genre d'initiative.
Et justement, suite à cette journée, est-ce que vous avez observé un nouvel intérêt, un nouveau regard intergénérationnel, puisque vous avez dit qu'il y avait des jeunes, les écoles étaient très impliquées, sur ce patrimoine, sur la Transsévenol. Est-ce que... les habitants, les écoles, les jeunes ont envie d'en savoir plus, ont envie de s'investir
oui.
autrement.
Je dirais oui, parce que d'abord, bon, les marcheurs ne sont pas simplement là que pour marcher, ils sont là pour regarder, pour admirer tous ces chefs-d'œuvre. Et puis, on a quand même quelques retours, mais ils sont quand même très légers. Il faudra vraiment passer au niveau supérieur pour faire connaître ce patrimoine.
Alors justement, si on parle de projet, de demain, en tout cas la continuité de s'appliquer à cette association, à la Transévénole, quels sont-ils ?
Alors, nous avons eu une certaine frustration à la fin de la première phase de travail. Pourquoi ? Ben, ça a été dit tout à l'heure, nous étions en 2020, nous étions en période de confinement, et la dame qui, enfin Anne Dubos, qui donc travaillait sur l'aspect social, n'a pas pu aller jusqu'au terme qu'elle attendait. Deuxièmement, nous n'avions pas forcément nous compris où était ce terme. Est-ce qu'il y aurait des réalisations ? Car en fait, nous attendions des réalisations. À la fin donc, de leur prestation, aucune prestation n'est perceptible, en tout cas dans l'espace de la voix. Et beaucoup de gens, notamment dans l'association, sont frustrés. Bon, ce qui se conçoit. Aujourd'hui, le PNR nous offre la possibilité d'aller plus loin à travers une nouvelle phase et même une troisième phase est programmée. Et à partir de là, renaît l'espoir de déboucher.
Toujours dans l'interprétation sonore, il y a donc des idées qui vont émerger pour la valoriser autrement, cette voix. Est-ce qu'entre vous déjà, entre membres de l'association, vous participez à ce nouveau projet, vous évoquez des idées ?
Je ne sais pas si on donne beaucoup d'idées, parce que c'est quand même une façon de voir qui ne nous est pas très commune. Mais je crois que oui, l'association tient en tout cas à être associée pour des tas de raisons, ne serait-ce que pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire connaître et puis de sauvegarder ces chefs-d'œuvre. Et puis la volonté quand même d'essayer d'ouvrir au maximum de la population ce genre de choses.
Vous parliez justement d'autres façons de voir, d'un langage différent, peut-être un peu plus institutionnel de la part du PNR. Est-ce que ça vous ouvre d'autres regards, d'autres possibilités ? On parle beaucoup dans ces résidences, surtout à l'ère 2023, de plurimédia, de pluridiscipline. Est-ce que ça vous ouvre le champ des possibles sur faire connaître cette association et la Transévénole à travers d'autres disciplines ou d'autres médias ?
Ben oui, parce que si vous voulez, d'abord, c'est quand même un projet qui doit permettre de faire connaître beaucoup plus la Transévénole et ses ouvrages remarquables. Donc il faut qu'on y soit associé, ça c'est à peu près sûr. Notre aide ne sera peut-être pas énorme, mais nous tenons beaucoup à avoir un résultat qui soit concret sur le terrain et qui permette à des tas de gens, de marcheurs évidemment, qui auront la possibilité à ce moment-là de pouvoir bien s'informer et puis connaître tout cet ensemble.
Un dernier mot, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, hein, oui. Des futures et prochaines actions de votre association dans l'année qui arrive, on est en fin 2023, pour 2024 peut-être ?
Bah pour 2024, on a une opportunité qui est un peu spéciale, mais qui se situe, nous avons toujours les deux mêmes marches, dont les premiers dimanches de juin et d'octobre. Et le 2 juin 2024, il y a la fête du fin gras, qui d'ailleurs là aussi est interdépartementale. Donc nous nous associons à cette démarche. Bon, évidemment, chacun fera ses possibilités de faire connaître ses sujets, mais on va essayer, nous, de bien profiter de cette opportunité.
Si on veut plus d'informations sur votre association, on se rend où ?
Oh, alors là, non, c'est de quelques personnes. Donc, en fait, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de...
Mais un site internet,
on a,
peut-être ?
On a un site internet.
Oui, il y a un site internet, tout
bon,
à fait.
Sinon, on peut s'adresser à la mairie du monastique.
Sur Gazelle.
En général, qui me fera suivre.
Et plus tard aussi sur le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, à la restitution de ce projet. Merci beaucoup Jean-Pierre Vadjani, vice-président de l'association Transévénole, et Patrick Mottet, membre de l'association et ancien président. Merci beaucoup d'être venu. venu témoigner ce beau projet sonographie au micro.
Merci.
Avant de conclure cette émission, je vais laisser le micro à toi, Lily, puisque tu as interviewé également Laure Jourdan, donc élue locale. Alors, si tu
adjointe aux actions culturelles du monastère Saint-Gazeille.
Voilà, exactement. Je n'avais plus exactement l'intitulé, puisque nous le train. Cette Transévenol, cette voie continue d'influencer les habitants. Et justement, pour terminer ce plateau, tu as partagé avec elle le ressenti de comment elle l'a vécu.
Laure Jourdan, vous êtes adjointe au Monastier sur Gazeille, en charge des affaires culturelles, déléguée au parc de sa commune et impliquée dans de nombreux projets et dynamiques locales. Vous avez suivi de près le projet Chemin Faisant. Le projet est abouti ou est en voie d'être abouti. Comment vous avez ressenti l'implication des habitants et surtout l'implication de votre commune dans ce projet ?
Alors effectivement, quand on nous a proposé ce projet-là, il y avait plusieurs partenaires. Il y avait effectivement donc la mairie du Monastier sur le projet de la Transévenol. Il y avait l'association de la Transévenol donc, qui était basée sur l'Andriac. Il y avait l'Espace culturel européen qui est une association donc, du Monastier avec comme président M. Leclerc. Et donc, moi-même, donc, en tant qu'adjointe à la culture. Le but de ce projet-là était effectivement de faire découvrir la Transévenol parce que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement connu. Et nous, on s'est tourné essentiellement sur le public enfant. Donc, le projet a été de mettre en relation les intervenantes donc, choisies par le parc des Monts d'Ardèche et également donc, les écoles. Donc, le projet est parti en fait de cette ambition-là, que par le biais des enfants, on puisse toucher les gens du territoire.
Donc là, pour le coup, cette dimension participative, c'était principalement un public jeune qui l'apportait.
C'est ça, c'est du niveau scolaire, en fait.
Concrètement, comment vous avez perçu cet impact-là ? Est-ce que vous diriez qu'on est à la fin de ce projet, en tout cas dans la continuité ?
Oui.
Est-ce que vous pourriez dire que votre objectif a été atteint, que c'est plus connu ?
Oui, je pense déjà que c'est plus connu par ne serait-ce que les médias, puisque alors même la Transévenol devient un sujet quand même particulièrement médiatique en Haute-Loire, en tout cas. Et puis aussi les enfants qui ont réussi à la fois à comprendre ce que c'était grâce justement aux interventions, à voir aussi la Transévenol non pas que comme un chemin, mais comme effectivement quelque chose qui peut être artistique. C'était le cas aussi des interventions de Anne et Michel. Et donc en plus, après, on a eu une relation, puisqu'elles sont venues ici faire un concert à l'abbatiale et une intervention avec la Transévenol, et là, on avait les parents. Donc effectivement, ça a été une découverte pour tout public, au final.
Il y a un côté intergénérationnel ?
Oui, je pense. Oui. Alors, je passe toujours par le canal enfant pour toucher l'intergénérationnel, parce que c'est un très bon canal.
Voilà. Pourquoi ?
Ben, ils sont déjà très curieux, très ouverts. Ils sont, j'ai envie de dire, vierges de connaissances. Et du coup, après, à la maison, ils en parlent. Et les parents sont, on va dire, plus motivés à venir parce que les enfants participent à un projet. Et ça permet à chaque fois, finalement, de faire un échange, ne serait-ce qu'entre parents et enfants, voire là, grands-parents, enfants et petits-enfants.
Donc, pendant ces résidences, pendant ce projet, il y a une participation donc, de groupes constitués en école dans, justement, ce projet-là. Comment, justement, la transmission continue de se faire, la vulgarisation continue de se faire ?
Alors, je pense que déjà, par le biais de la communication au niveau de la municipalité, ça continue. L'espace culturel européen aussi, on est en partenariat quand même souvent avec la Transévenol. On a quand même une marche qui est faite chaque année par cette association et qui passe par le Monastier. Donc, ça irradie un petit peu sur le territoire. Après, je pense qu'il reste des choses encore à faire, hein, parce que les gens zappent beaucoup. C'est la génération qui veut ça. Et je pense qu'il faut des piqûres de rappel. Après, ces projets artistiques, justement, ça permet de mettre, j'ai envie de dire, un coup de projecteur. Et ça reste un peu dans les mémoires des gens.
Par exemple, les piqûres de rappel qui sont à faire selon vous ?
Alors, selon moi, je pense qu'il serait intéressant de refaire en fait quelque chose d'artistique sur effectivement la Transévenol, faire participer aussi les gens. Ça peut être aussi leur demander leur opinion, la vision des choses qu'ils ont, le sentiment qu'ils ont quand ils marchent sur la Transévenol, parce qu'il y a énormément de gens qui viennent marcher mais qui ne savent pas que c'est la Transévenol. Et bon, après, professeur d'histoire oblige, je pense qu'il serait bien quand même de rappeler l'histoire de cette voie également.
Pour vous, après tout ça, Laure Jourdan, c'est quoi la Transévenol ?
Alors, c'est un projet qui, malencontreusement, n'est pas arrivé à terme, si je prends les arguments historiques, et qui, finalement, maintenant, a été réapproprié par la population dans un autre objectif qui était la voie de chemin de fer. Et je pense que c'est le plus important, et ça lie quand même deux territoires importants qui sont, j'ai envie de dire, l'Auvergne et les Cévennes.
Il y a une mémoire à transmettre à ce niveau-là ?
Évidemment.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Vous l'avez compris, la Transcévennole continue de vivre et d'exister, même si elle n'a pas forcément fonctionné. Elle est toujours là. Cette Transcévennole s'inscrit et tout ce travail s'inscrit dans le projet Chemin Faisant à la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont 6 parcs naturels d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont mené pendant 3 années 3 résidences de recherche-création associant des artistes et des chercheurs, plus particulièrement en sciences sociales lors de résidences d'action à travers les territoires.
Si on veut en savoir plus, Lily, alors...
Si on veut en savoir plus sur
ce projet
autour de la Transcévennole plus particulièrement et du Parc national des Monts d'Ardèche, eh bien c'est directement sur leur site internet www.parc-mont-ardèche.fr. Vous aurez toutes les informations et tous les travaux qui ont été faits.
C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous tenons également à remercier les intervenants de ce plateau, notamment les intervenants du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, Elisa Jaffrenou et Thierry Leclerc, également la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, l'association Transcévennole, Jean-Pierre Vagiani et Patrick Mottet qui étaient présents avec nous, les élus des communes du parc sur lesquelles passe la Transcévennole et qui ont rendu possible le lien, le travail commun pour ce projet sonographie, et également l'ensemble des acteurs associatifs, les écoles, l'espace culturel européen et les habitantes et habitants qui ont pris part à ce beau projet de valorisation sonore. Merci également à vous, chers auditeurs, auditrices, d'être à l'écoute sur les ondes des 3 radios associatives d'Ardèche et Haute-Loire, FM 43 à Issingeau, Fréquence 7 à Aubenas et Radio des Boutières au Chélard. À bientôt sur nos ondes.
Chemin faisant.
Chemin faisant.
Chemin.
T'es sûr, c'est le bon chemin.
Chemin
faisant.
Chemin faisant. À la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Regard croisé sur des résidences de recherche et création dans 6 parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Chemin.
Chemin.
En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Musicienne, écrivain, écrivaine,
mais aussi sociologue,
danseur et danseuse,
chercheur en sciences sociales.
Chemin
faisant.
12 radios dans 6 parcs vont à la rencontre de leur travail.